Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Et effectivement, nous reviendrons sur ce nouvel épisode dans la crise du Brexit. Le président de la Chambre des communes, John Bercow, qui annonce sa démission. Les parlementaires se prononcent ce soir sur d'éventuelles élections anticipées réclamées par Boris Johnson. Le Premier ministre va sans doute essuyer un nouvel échec. Nous ferons le point avec Antoine Gignot. En Italie, Giuseppe Conte devrait lui obtenir la confiance des députés. Le président du Conseil donne une orientation résolument européenne à son gouvernement, Olivier Tosseri. Il nous appellera de Rome. Une petite révolution dans le monde de l'automobile. L'allemand Porsche se met à la voiture électrique. Le reportage à Berlin de Ludovic Piétenu. En France, Aigle Azur attend son ou ses repreneurs. La compagnie aérienne pourrait être reprise par Air France et Air Caraïbes qui semblent bien placés. Nous ferons le point avec Hakim Kasmi. Nous évoquerons aussi la crise des urgences. La ministre de la Santé Agnès Buzyn vient de promettre une enveloppe supérieure à 750 millions d'euros pour répondre à cette crise des urgences hospitalières. Boris Johnson sera-t-il encore Premier ministre à la fin de la semaine? Une nouvelle épreuve l'attend ce soir, le vote du Parlement britannique sur d'éventuelles élections anticipées. Boris Johnson veut un scrutin à la mi-octobre pour ensuite sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre. Scénario rejeté par l'opposition majoritaire qui veut un report du Brexit au 31 janvier. C'est le sens de la loi votée la semaine dernière à Westminster, loi que vient d'approuver la reine. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Londres, Antoine, le feuilleton du Brexit qui a donc connu il y a moins d'une heure un nouveau rebondissement, la démission annoncée du président de la Chambre des communes, John Bercow.
Absolument, député depuis 22 ans, John Bercow, président du Parlement depuis une dizaine d'années. Il n'a pas caché ces derniers mois son opposition au Brexit. Il a d'ailleurs joué un rôle clé dans l'adoption de cette loi qui interdit une sortie sans accord de l'Union européenne et qui vient d'être promulguée. C'est un départ qui, après celui de deux ministres, dont le propre frère de Boris Johnson, est un symbole de plus de l'opposition des parlementaires à un Brexit dur. Plusieurs conservateurs annoncent d'ailleurs en parallèle qu'ils ne seront pas candidats aux prochaines élections, comme Mark Prisk, 57 ans, qui dénonce la montée d'une idéologie étroite au détriment du pragmatisme et du bon sens. Ce qui est certain, c'est que le parti, les Tories, vont se restructurer et vont profondément changer dans les semaines qui viennent.
Antoine, il est peu probable en fait que Boris Johnson obtienne ce soir les élections anticipées qu'il réclame.
Eh oui, pourtant, malgré le chaos politique, les conservateurs sont toujours en tête des intentions de vote. 35%, c'est ce que montre le dernier sondage YouGov, c'est 14 points de plus que les travaillistes. Et c'est sur ce score que mise Boris Johnson. Le Premier ministre va demander au Parlement ce soir de déclencher une nouvelle fois des législatives anticipées pour essayer de se relancer. Mais le problème arithmétique reste entier. Il lui faut 2/3 des voix minimum pour pouvoir y parvenir. Verdict autour de 23h. Un nouvel échec pourrait le contraindre à démissionner, à quitter Downing Street, mais il provoquerait de fait de nouvelles élections. Et plusieurs politologues ces derniers jours expliquent qu'il pourrait s'agir d'une tactique, quitter le pouvoir pour mieux y revenir.
Antoine Gignot, correspondant à Londres, merci. Après ce journal, Emmanuel Laurentin reviendra sur la crise politique au Royaume-Uni avec ses invités dans le temps du débat. L'Italie, elle, est sortie de l'instabilité gouvernementale. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, devrait obtenir ce soir la confiance des députés. Sa nouvelle coalition, formée par le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, est largement majoritaire à la Chambre. Le vote s'annonce plus serré au Sénat italien. Dans un discours fleuve, Giuseppe Conte a défendu ce matin le projet de son nouveau gouvernement, résolument pro-européen. Une rupture avec son premier gouvernement, dominé par l'activisme anti-européen du chef de la Ligue, Matteo Salvini. Plusieurs centaines de militants de la Ligue et des Frères d'Italie ont d'ailleurs manifesté leur opposition à la nouvelle coalition à proximité du Parlement. Olivier Tosseri nous appelle de Rome.
Ouvrir une nouvelle saison de réformes, c'est la promesse faite par Giuseppe Conte devant les députés. Il s'engage avant tout à adopter un budget qui empêche l'augmentation de la TVA, tout en conciliant une baisse significative des impôts avec la relance des investissements publics pour permettre le retour de la croissance. Même les plus fins observateurs auront du mal à percevoir la discontinuité promise avec le précédent gouvernement. Elle sera d'abord sémantique puisque Giuseppe Conte prend avec ses ministres l'engagement solennel de soigner leur langage. Il choisira ses mots pour demander plus de flexibilité à Bruxelles et améliorer le pacte de stabilité. C'est indispensable pour lancer un New Deal écologique, adopter une loi sur le salaire minimum et la parité de rémunération homme-femme, ainsi qu'un plan pour soutenir les ménages les plus pauvres et le Sud défavorisé. Concernant l'immigration, les décrets sécurité de Matteo Salvini seront corrigés, mais pas abolis. Près de 90% des Italiens approuvant la ligne dure de l'ancien ministre de l'Intérieur. La confiance des marchés financiers était déjà acquise au nouveau gouvernement de Giuseppe Conte. Celle du Parlement le sera cette semaine. Reste désormais à conquérir celle des citoyens. La tâche la plus difficile, alors que 52% des Italiens n'approuvent pas l'insolite coalition entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate.
Olivier Tosseri, correspondant en Italie. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini s'était souvent heurté au pape, accusé d'encourager l'immigration en Europe. Eh bien, en visite à l'île Maurice, le souverain pontife est resté fidèle à sa ligne favorable à l'accueil des migrants. François a célébré une messe devant plus de 100 000 personnes, soit près de 8% de la population mauricienne. Messe qui concluait son voyage d'une semaine dans l'océan Indien. Le reportage de notre envoyé spécial, Bruce de Galzin.
Alan a 5 ans, il assiste à la messe accroupi sur la colline qui domine la ville et l'océan. Il est avec ses parents, hindous. À l'école, il parle toutes les langues.
J'apprends l'anglais, hindi, français, max, avec mon maman et papa et mon frère.
Ici, tous ne sont pas catholiques, car l'ADN de ce peuple, comme a dit le pape, est l'accueil des migrants et doit surtout le rester. Dans un pays où certains n'ont pas complètement leur place, explique Claire, à 69 ans, elle est travailleuse sociale.
Les Pakistanais, ils arrivent, ils travaillent la nuit ou dessous. On les exploite quelques-uns ici. Ça, nous, on n'aime pas beaucoup.
Naomi, elle, agite sa feuille de palmier en voyant passer le pape. Elle est d'origine chinoise, dans une école catholique. Ses amis viennent de partout.
On est tous pareils à l'école. Les hindous connaissent le Notre Père comme les musulmans. C'est intéressant aussi de savoir la culture des autres. Et c'est tellement joli aussi de voir l'expérience qu'ils ont. Et qu'on partage entre amis, c'est un truc nouveau aussi.
Mais conscient que beaucoup de jeunes ne sont plus catholiques, François a lancé « Ne nous laissons pas voler le visage jeune de l'Église ».
Bruce de Galzin depuis l'île Maurice. Le rapprochement entre la France d'Emmanuel Macron et la Russie de Vladimir Poutine s'accélère. Deux ministres français sont à Moscou aujourd'hui. Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay, et sa collègue de la Défense, Florence Parly. Il s'agit d'une première depuis 2012 et surtout depuis l'annexion russe de la Crimée en 2014. Emmanuel Macron qui a décidé de tourner la page du climat de guerre froide entre Paris et Moscou. Claude Bruyot nous appelle de Moscou.
Le moment est venu de tenter de se faire confiance, sans naïveté. Et Jean-Yves Le Drian et Florence Parly n'étaient pas trop de deux aujourd'hui à Moscou pour essayer d'entamer sur le terrain diplomatique le début de la normalisation de la relation franco-russe.
Le moment est propice pour travailler à réduire la défiance. Nous avons connu ces dernières années de grandes difficultés avec la Russie. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble, sur l'Ukraine, sur les attaques chimiques, sur la situation en Syrie, sur l'attaque contre le MH17. Nombre de situations nous ont amené à avoir de la défiance à l'égard de la Russie. Mais nous gardons aussi des intérêts en commun. Et le premier d'entre eux est d'agir en puissance souveraine, actrice de leur propre sécurité et actrice de la sécurité internationale. Et notre conviction est que si nous ne parvenons pas à construire quelque chose d'utile avec la Russie, nous resterons dans une tension et surtout dans une défiance stérile.
Mais le plus dur reste à venir avec le partenaire russe, savoir saisir tout de suite la première occasion créée par l'échange massif de prisonniers entre Moscou et Kiev avant-hier et avancer avec l'Allemagne et l'Ukraine sur la résolution du conflit dans le Donbass, pour lequel Jean-Yves Le Drian a parlé d'une fenêtre d'apaisement.
C'est un véritable événement dans le monde de l'automobile. Les plus grands constructeurs allemands se mettent à la voiture électrique. Petite révolution dans le pays qui a inventé le diesel. À 3 jours de l'ouverture du salon de l'auto de Francfort, le groupe Volkswagen présente aujourd'hui 2 modèles, l'ID3 de marque Volkswagen et surtout une Porsche électrique première du genre. À Berlin, le reportage de Ludovic Piétenu.
Elle est reconnaissable au premier coup d'œil avec sa ligne fuyante, ses ailes avant galbées. Pas d'erreur, il s'agit bien d'une Porsche et elle est bien sportive. La Taycan promet d'atteindre les 100 km/h en 3 secondes, autant que le modèle équivalent de sa concurrente américaine Tesla, mais plus cher, ce qui n'a pas empêché déjà 30 000 précommandes à 152 000 euros minimum l'unité, contre 90 000 pour Tesla. Moins autonome aussi, 400 km environ contre 550 pour la firme américaine, bien plus en avance dans ce domaine que n'importe quel constructeur allemand.
Nous savons que ce chemin ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous nous y engageons de façon déterminée et cohérente.
Ici, c'est Ralf Brandstätter, l'un des dirigeants de Volkswagen, propriétaire de Porsche, qui il y a quelques jours confirmait l'offensive de son groupe sur l'électrique à hauteur de 30 milliards d'euros. Il en profitait pour présenter le premier modèle tout électrique de Volkswagen, l'ID3.
Zéro émission de CO2, c'est notre objectif pour 2050. C'est notre contribution à l'accord de Paris sur le climat. Nous voulons rendre toujours possible la mobilité individuelle pour tous, même en période de changement climatique.
En 2025, Volkswagen espère vendre 1 million de voitures électriques par an, une transition toute relative puisqu'à la même date, le groupe se fixe aussi pour objectif d'augmenter son offre de SUV, ses gros 4x4, de 11 à 30 modèles.
Ludovic Piétenu, correspondant en Allemagne. Au Japon, le directeur exécutif de Nissan a finalement démissionné. Hiroto Saikawa a été rattrapé par une affaire de prime indûment perçue, prime d'un montant de 47 millions de yens, soit environ 400 000 euros au cours actuel. Hiroto Saikawa était un proche de Carlos Ghosn, mais il avait retourné sa veste lorsque l'ancien PDG de Nissan avait été arrêté pour des malversations financières présumées. Aigle Azur intéresse 14 repreneurs potentiels. C'est en tout cas le nombre d'offres déposées pour la reprise de la compagnie aérienne en redressement judiciaire. 1150 emplois sont en jeu. Rappelons qu'Aigle Azur est spécialisé dans les liaisons vers l'Algérie. Ses avions ne volent plus depuis vendredi. Sur ces 14 repreneurs potentiels, deux offres se détachent, celle d'Air France et celle d'Air Caraïbes. On retrouve au siège d'Aigle Azur à Orly Hakim Kasmi. Bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Hakim, on s'oriente en fait vers un partage des activités entre deux repreneurs.
Oui, tout à fait. Le session n'est toujours pas terminé aussi au siège des Glazures. Alors, les deux offres les plus probables sont celles d'Air France, qui se dit prêt à récupérer 70% de l'activité et surtout du personnel des Glazures et l'intégralité de l'activité moyen courrier. Mais sous quelle forme? Car si Air France devait le faire avec sa filiale low cost Transavia, les contrats de travail et les salaires ne seraient pas les mêmes. Quant à l'activité long courrier des Glazures, elle pourrait être récupérée par Air Caraïbes, qui se dit prêt à injecter 15 millions d'euros et à récupérer 106 personnes chez Glazures. Cela n'empêchera pas des suppressions d'emplois, prévient déjà les syndicats, notamment la CFDT qui estime qu'il pourrait avoir entre 150 et 200 postes supprimés, notamment chez les personnels au sol. Raphaël Cassia de la CFDT Glazure.
Ouais, c'est au niveau du sol qu'il y a les risques les plus importants aujourd'hui. Sur les 800 salariés en France, on a un risque potentiel quand même sur une partie du personnel au sol. Et il y a 350 personnes en Algérie pour lesquelles, pour le coup, on n'a aucune réponse.
Autre catégorie de personnel inquiète ce soir, ce sont les CDD comme Nora, hôtesse de l'air. Son contrat devait s'arrêter à la fin du mois et elle ne sait toujours pas ce soir si les repreneurs potentiels incluront les précaires comme elle.
Merci Hakim Kasmi en direct d'Orly avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. C'était le plus grand groupe textile français, mais depuis 3 ans, rien ne va plus pour Vivarte. Licenciement, blocage des salaires, cession d'enseignes. Le groupe est en plein démantèlement ou restructuration selon le point de vue adopté. Le journal Le Parisien révèle ce matin que cette crise n'a pas empêché des cadres de Vivarte de toucher de généreux bonus, près d'1 million d'euros versés entre 2017 et 2019. Marie Viennot.
C'est la CFDT de Vivarte qui a d'abord publié ces chiffres sur sa page Facebook. 523 000 euros distribués à 31 personnes en 2017 et 420 000 à 14 personnes en 2018. Jean-Louis Alfred, délégué CFDT de la Halle Unifiée.
Vous avez une personne qui en 2017 a touché plus de 220 000 euros de primes et qui en 2018 a touché la même chose, 440 000 euros pour une personne. Qui est cette personne? Et quel travail fait-elle?
À cette question, le PDG Patrick Puy refuse de répondre. Il dit aussi ne pas s'y retrouver dans les chiffres qui sont publiés, mais reconnaît ces primes qu'il nomme des bonus de rétention, bonus nécessaires selon lui pour garder les hauts cadres de l'entreprise alors que les salaires sont bloqués depuis plusieurs années. Patrick Puy, PDG de Vivarte.
Et puis ça correspond également à des bonus d'intéressement sur les cessions. On a considéré que pour bien faire ces cessions, il fallait que les personnes qui y travaillaient soient intéressées avec des bonus qui correspondaient à une bonne cession. Une bonne cession, c'était une cession qui produisait de l'argent, mais qui surtout une cession qui garantissait à l'entreprise qui était cédée un avenir un peu plus intéressant ailleurs que chez Vivarte, plutôt que chez Vivarte. Et donc, je ne le regrette pas.
Le démantèlement de Vivarte, les syndicats n'ont plus l'espoir de l'éviter. Mais Jean-Louis Alfred, de la CFDT, réfute l'idée que les cessions réalisées méritaient des bonus.
Compagnie Vosgienne de la Chaussure, elle n'existe plus. Défi Mode n'existe plus. André va avoir gros problèmes. Chevignon frôle le dépôt de bilan, il a été cédé il n'y a même pas 8 mois. Cosmo Paris suit le même chemin. Alors dans ces conditions, les seuls qui arrivent justement à s'en tirer, c'est la cerise sur le gâteau, c'est les cadres qui organisent ce démantèlement. et qui sera sur la bête.
Il y a 3 ans, Vivarte employait 17 000 salariés. De cessions en plan de licenciement, ils sont aujourd'hui 7 000. Or, le groupe a toujours des problèmes. Il a déjà annoncé faire défaut sur le remboursement de sa dette en octobre.
Marie Viennot, merci. Agnès Buzyn dévoile en ce moment ses mesures pour répondre à la crise des urgences hospitalières. Cela fait 6 mois que les services sont touchés par une grève inédite pour dénoncer le manque de moyens. La ministre de la Santé avait promis une enveloppe financière conséquente. Cécile de Kervas-Doué, bonsoir.
Bonsoir.
L'enveloppe débloquée par la ministre se chiffre effectivement en plusieurs centaines de millions d'euros.
Pour désengorger les urgences, chacun détient une part de solution, a tenu à déclarer la ministre à la presse il y a quelques minutes. Elle a donc annoncé une enveloppe de plus de 750 millions entre 2019 et 2022. Une enveloppe pour financer 12 propositions fortes. D'abord, un service universel pour répondre à toute heure à la demande de soins des Français. D'ici l'été 2020, une plateforme accessible en ligne ou par téléphone sera donc mise en place pour dispenser des informations médicales et orienter les patients vers l'hôpital en cas d'urgence vitale ou vers la médecine de ville, si cela peut attendre. Coût estimé autour de 340 millions d'euros pour cette plateforme. Le plan de la ministre prévoit surtout donc de mettre à contribution les médecins libéraux qui devront proposer davantage de consultations sans rendez-vous dans leur cabinet. Ils seront pour cela aidés par la création de 3500 postes d'assistants médicaux. Toujours chez les médecins de ville, la ministre va aussi financer, via des aides à l'équipement, la possibilité de pouvoir faire réaliser des examens biologiques simples dans les cabinets, et ce à partir de 2020. Enfin, le SAMU pourra aussi solliciter les ambulances pour emmener les patients dans les cabinets en ville. Pour contourner le fait que beaucoup de patients préfèrent toujours aller aux urgences parce que c'est gratuit, la ministre prévoit donc aussi d'imposer systématiquement le tiers payant dès la fin de cette année pour les médecins libéraux de garde. Les patients n'auront donc plus rien à y débourser. Autre point encore de ce plan Buzyn, s'appuyer sur les professionnels non médecins qui pourront prendre en charge directement les patients. Par exemple, un kinésithérapeute sera amené à prendre en charge une entorse à la cheville. À long terme, la ministre a aussi annoncé vouloir renforcer et reconnaître les compétences des professionnels des urgences, notamment les professions paramédicales, réformer le financement des urgences, lutter contre les dérives de l'intérim médical et renforcer la sécurité des urgentistes. Ces mesures s'ajoutent aussi à celles annoncées en juin et septembre, c'est-à-dire la prime de 100 euros pour les personnels des urgences, hors médecins, les nouvelles compétences pour les infirmiers urgentistes qui rentrent en application dès cet automne, l'admission directe pour les personnes âgées dans des services spécialisés sans passer par les urgences et la mise en place d'une vidéo-assistance de médecins dans tous les SAMU. Le hic, c'est quoi ? Eh bien, c'est que le ministère ne prévoit pas d'ouverture de lits ni de recrutement de personnel, comme le réclament pourtant les grévistes depuis le mois de mars.
Cécile de Kervas-Doué, merci. Et les syndicats et le collectif à l'origine du mouvement de grève dans les urgences se feront connaître demain leur position quant à ces mesures annoncées par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. On va terminer ce journal avec des chiffres porteurs d'espoir sur le front du sida. Pour la première fois depuis 10 ans, le nombre de contaminations par le VIH a baissé à Paris. Entre 2015 et 2018, les nouveaux cas de séropositivité ont reculé de 16% dans la capitale. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Comment expliquer ces bons chiffres, Antoine ?
Eh bien, c'est la PrEP qui est en grande partie responsable de cette inversion de courbe des contaminations. La PrEP, c'est un traitement préventif contre le VIH. Elle s'adresse aux personnes séronégatives, à risque essentiellement des hommes homosexuels pour le moment. Elle a été instaurée en France début 2016 sous l'impulsion du professeur Jean-Michel Molina. Il est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis-la-Ribosière à Paris.
On se rend compte que cette diminution des nouveaux diagnostics ne s'observe que chez les homosexuels masculins et que ceux qui sont nés en France. Et c'est justement cette population qui a accès à la PrEP. On voit bien que dans les consultations de PrEP, seuls les homosexuels masculins aujourd'hui à 98% viennent pour avoir accès à ce moyen de prévention qui n'est malheureusement pas encore diffusé dans les autres groupes à risque.
Actuellement en France, on estime entre 10 et 12 000 le nombre de PrEPeurs. Ils ont le choix entre un traitement continu, une pilule par jour, ou un traitement à la demande avant et après le rapport sexuel. Jean-Michel Molina espère que ces résultats très encourageants vont faire tomber les nombreuses réticences sur la PrEP.
On attendait cette démonstration. Si vous voulez, la PrEP reste encore malheureusement un outil de protection controversé, car prendre une pilule à la place du préservatif reste pour beaucoup de gens quelque chose qui les gêne, y compris pour des médecins d'ailleurs. Donc le fait qu'on puisse démontrer enfin un impact sur l'épidémie, c'est quelque chose de majeur, parce que ça valide cette stratégie.
Car partout où la PrEP se développe, le VIH recule. À Londres, entre 2015 et 2018, le nombre de contaminations chez les hommes homosexuels et bisexuels a ainsi baissé de 50%. Rappelons toutefois que la PrEP est très efficace, mais seulement contre le VIH. Elle ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles.
Antoine Marette, merci. Un mot du temps. Demain, le soleil revient sur la moitié nord, alors qu'au sud, la pluie arrive. Les cumuls de précipitations pourraient être importants entre le Roussillon et la région PACA. Température minimale très contrastée, de 4 à 18 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 17 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.